RCF.
Vous êtes sur RCF, c'est l'heure des 18-19 régionales. Il y a beaucoup de monde autour de la table. Je vous laisse la présentation avec Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonsoir à tous, 18h10, 19h, le magazine régional RCF, Cœur de Champagne, RCF, Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous du monde autour de la table ce soir.
Effectivement, avec bien sûr le chroniqueur du mercredi, Robert Auverger, qui est avec nous. Et puis Fernand, qu'on ne présente plus, Fernand Tavares.
Eh bien, on peut le saluer, Jean-Pierre.
Saluons-le.
Bien sûr, mais je m'attendais à ce qu'Alexis embraye en nous disant il va nous parler certainement de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Je vous ai entendu faire le brief au loin. Je me suis dit, je vous laisse faire.
L'actualité parlementaire, elle n'arrête pas. Hein. Elle est hebdomadaire.
Alors, on évoquera sans doute d'autres sujets, Alexis.
Effectivement, notamment un maire qui vous parle, Jean-Pierre Benoît, plutôt une maire. Ça sera Anoudar, qui est maire
Anoudar
de Mazerny.
De Mazerny, à côté de Poitéron, dans les Ardennes.
Effectivement, on ira faire un tour dans les crêtes pré-ardennaises. Et puis nous serons également avec Erika Djadjo pour présenter le livre chrétien, en fait. Jean-Pierre Benoît, en quelques minutes, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un festival du livre chrétien en deux temps. D'abord à l'Institut catholique de Paris, ce sera vendredi soir. Et puis samedi, ça sera dans une petite commune que vous connaissez, Alexis, puisque ça sera à Vendeuil.
On connaît bien Vendeuil, effectivement.
Oui, on connaît bien son maire.
Pour la fête de la citrouille, très réputée aussi.
Et oui, et il y aura donc toute une série de manifestations. On en saura bien sûr beaucoup plus tout à l'heure.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'autres personnes autour de la table, nos stagiaires à la rédaction, ils sont là tous les deux. Nous avons, on va faire honneur aux filles pour commencer, Manon Bréval qui est avec nous. Bonsoir Manon.
Bonsoir.
Tout va bien ?
Super.
Bon, bah tant mieux. Kylian est avec nous, tout sourire également. Salut Kylian.
Bonsoir Alexis.
Pareil, tout va bien.
On peut demander à nos deux jeunes intervenants sur quel sujet ils vont peut-être parler ce soir, Manon.
Nous allons présenter la météo à deux voix.
On innove, Jean-Pierre. Maintenant, c'est la météo à deux voix.
Et c'est le parapluie encore pour demain, peut-être ?
Oui. Effectivement.
Parapluie, bah écoutez, il faut dire que nous sommes, c'est un mois quand même d'automne, et puis vous savez qu'ici qu'on est très attaché à tous les dictons, en particulier belges, brouillard en novembre, Noël en décembre, et je pense que ça va se réaliser encore cette année.
Et Fernand Tavares disait c'est la pluie et le beau temps, c'est vrai qu'il pleut dehors, mais nos stagiaires sont les soleils de la rédaction. 18h13, Jean-Pierre, je vous laisse ta main.
Et oui, avec en un mot la chronique avec nous de Robert Auverger. Robert, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre Blanc.
Alors c'est vrai que toutes les semaines, le mercredi, on prend un mot et puis avec ce mot, on essaye d'en savoir un peu plus avec vous. Et ce soir, on va évoquer un nouveau mot, c'est le mot solidarité que vous avez mis en avant. Il est dans l'actualité d'ailleurs. Il nous démontre combien il est nécessaire à travers de nombreuses associations, avec des ONG, comme les Restos du Cœur, le Secours Catholique et par exemple Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, j'en passe, Action contre la faim, vous en citez quelques-uns. La solidarité est-elle avant tout un principe moral ?
Oui, mais qui, heureusement, entraîne des actions concrètes de secours et d'aide. Le principe de solidarité est donc à la fois moral et social, mais alors ne soyons pas trop naïfs, voire même angéliques, il peut cacher quand même des intérêts politiques ou économiques, mais ne soyons pas trop injustes ou pessimistes, ces actions ont le mérite d'atténuer les malheurs.
Alors ce mot solidarité a-t-il toujours eu ce sens de générosité et d'entraide ?
Eh bien non, bien au contraire. Par exemple, au XVe siècle, par l'expression « in solidum », pour le tout, le latin juridique exprimait l'idée de la totalité d'une somme d'argent commune à plusieurs personnes, dont chacune répondait particulièrement en cas d'héritage et plus particulièrement encore en cas de dette. Dans ce cas, on parlait de « débiteur solidaire ». En droit français, l'obligation solidaire consistait à partager les intérêts et les engagements.
Alors le mot solidaire a évolué au cours de l'histoire. Et à quelle époque le sens de ce mot a-t-il évolué pour en arriver au sens que nous connaissons aujourd'hui ?
Ben, c'est dans la période terrible de la Révolution française que le mot solidarité a exprimé une dépendance réciproque, d'abord pour les choses, puis pour des personnes qui décident de s'entraider, mais ce principe fut peu appliqué au XIXe siècle.
À partir de quand le sera-t-il vraiment ?
Depuis environ un siècle, Solidaire est appliqué à la recherche d'une égalité que la société réelle se refusait obstinément à pratiquer, d'où d'ailleurs l'ambiguïté du mot et de l'idée. Ainsi, certains pouvoirs ont créé des impôts de solidarité.
Ce fut d'ailleurs le cas de Raymond Barre en 1976, qui créa un impôt sécheresse pour venir en aide aux agriculteurs.
Oui, ou encore plus récemment, l'ISF, l'impôt sur la fortune créé en 2018, est remplacé par l'IFI, impôt sur la fortune immobilière.
Et c'est-à-dire qu'ainsi, on peut dire que les pouvoirs réduisent vraiment les inégalités.
On peut se poser la question quand on pense, par exemple, au nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur et autres organisations humanitaires, au nombre de bénéficiaires en constante augmentation chaque année.
Alors, si on reste dans l'actualité, Robert Auverge, aujourd'hui, qu'en est-il de la solidarité sur le plan international face à la multiplication des catastrophes naturelles, aux guerres dont nous avons parlé lors de notre précédente chronique ?
Eh bien, elle a fait des progrès, même si, évidemment, ils sont insuffisants.
Alors justement, quels sont ces progrès, mais surtout dans quel domaine on peut les relayer ?
Eh bien, depuis le tsunami du début du siècle en Asie, et à chaque nouvelle catastrophe naturelle, on assiste à une mobilisation spontanée importante, d'abord entre voisins, ce qui n'est pas nouveau, puis au niveau local, national et si nécessaire au niveau international, mais on assiste aussi à la prise de conscience de situations souvent imprévisibles ou du moins imprévues, avec l'espoir d'y remédier du mieux possible à l'avenir.
Alors on sent qu'il y a une prise de conscience dans le domaine de la solidarité. Et que nous apprend-elle cette prise de conscience ?
Les catastrophes naturelles en particulier mettent toujours en évidence l'inégalité des situations dans les différentes parties du monde, de la misère la plus noire à la richesse la plus, disons, éclatante.
Alors hormis les associations, les organisations, les fondations humanitaires, alors, y a-t-il des remèdes à cette inégalité
oui,
de situation ?
Oui, mais hélas, ils sont très insuffisants.
Alors, par exemple, vous en avez quand même
On peut prendre un exemple. Bien qu'il n'ait pas que des avantages, on peut citer le tourisme, qui, à l'évidence, atténue les inégalités en aidant l'économie des pays démunis. Mais cette forme de solidarité involontaire peut paraître dérisoire face à l'horreur du sort des plus pauvres et à leurs membres.
Enfin, de toute façon, on l'a dit, et vous l'avez même presque chanté un jour, c'est la bienvenue pour les populations dans la misère. Effectivement, le tourisme, c'est quand même une opportunité.
Tout à fait, bien sûr, même si elle est évidemment insuffisante pour des raisons pas toujours pures, cette forme de solidarité est à prendre en compte, bien sûr.
Alors, en conclusion, puisqu'on arrive presque au terme de notre rencontre du mercredi, je suis sûr que vous avez une ou deux citations. Vous aimez bien quand même nous faire prendre un petit peu de hauteur.
Oui, une seule suffira, celle d'un des plus grands humanistes français.
Alors, quand on parle d'un humaniste français qu'on vous connaît, il y en a deux auxquels vous faites souvent référence, Montaigne ou Victor Hugo, c'est une chance sur deux.
Oui, vous avez gagné, Victor Hugo, en effet. Alors, Victor Hugo écrit, je le cite mot à mot, bien sûr, « Rien n'est solitaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil. » Le soleil est solidaire avec l'étoile. L'étoile est solidaire avec la nébuleuse. La nébuleuse, groupe stellaire, est solidaire avec l'infini. Donc, solidarité avant tout et de chacun avec chaque chose. La solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers. Le lien démocratique est de même nature que le rayon solaire.
Eh ben, on a de quoi méditer ce soir. On a de quoi quand même réfléchir. Ça nous laisse un petit peu quand même dans la réflexion pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera quoi au fait ?
Eh bien, écoutez, l'année prochaine.
La semaine prochaine. Vous aviez pris un peu de hauteur là.
Excusez-moi. Nous n'aurons plus un mot, mais deux mots. Ascenseur social.
L'ascenseur social, il fonctionne encore
Je vous le dirai.
Certains disent qu'il est devenu un escalier.
Nous essaierons de le voir.
On aura l'occasion d'y revenir. 18h20, nous sommes en direct, Alexis, pour la suite de notre programme.
Le 18-19 sur RCF.
On est pile à l'heure, Jean-Pierre. La suite, c'est de nouveau avec vous, avec un maire qui vous parle. Une maire ce soir, Anoudar, l'édile de Mazerny, est à votre micro, Jean-Pierre.
Anoudar, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il est vrai que à chaque fois qu'on reçoit un maire sur notre antenne, on est heureux qu'il nous présente sa commune. On va aussi parler de lui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Mazerny ? Combien d'habitants à Mazerny ? Où se situe Mazerny dans le département des Ardennes ?
Alors, Mazerny se trouve au centre du département des Ardennes, d'après le calcul de l'IGN. Son point se situe à 100 mètres du monument de la Crête-Mouton, proche de la commune de Ballon. L'altitude moyenne est 233 mètres. Mazerny est située sur le versant sud-est de la ligne ardennaise du partage des eaux. On est entre les eaux Rameuse et Seine-Normandie. Et la limite se trouve à la Crête-Mouton, sur vraiment les crêtes.
Alors là, on sait très bien où vous êtes. Hein, on a bien compris, Dame Houdard. Vous êtes très précise. Et cette commune de Mazerny, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, la population est de 126 habitants lors du recensement 2017, comprenant un tiers de personnes au-dessus de 65 ans. Donc nous sommes une population relativement vieille. Au niveau des enfants de la naissance à la primaire, on en a 9. On a 5-6 dans le secondaire et après, voilà, ça part un peu dans tous les sens.
Mais vous êtes maire de Mazerny depuis seulement un mandat à Noudar, mais vous étiez quand même au conseil municipal certainement avant.
J'ai pris en cours de mandat avant la place d'adjoint, voilà, suite à une démission.
Et vous êtes maire depuis à peu près 3 ans.
Voilà, avec le Covid, ça a été un peu compliqué au départ. Avec les, on avait l'ancien maire, on n'avait pas encore les nouvelles élections, puis avec toutes les restrictions, ça a été un peu compliqué, la mise en route. Voilà.
Alors, vous avez souhaité d'ailleurs, vous le disiez en aparté, vous consacrer pleinement à cette mission de maire, pas avoir une autre activité. Il y a beaucoup de maires qui ont des activités professionnelles dans les communes.
Oui, mais bon, si vous êtes votre activité proche de la commune, ça va. Autrement, vous n'êtes pas au fait de tout ce qui se passe. Hein, même si on est des petits villages, il faut quand même suivre ce qui se passe. Et bon, on ne peut pas toujours trouver des solutions, mais si on n'est pas là, on passe à côté.
Absolument.
De beaucoup de choses.
Le maire, il est très souvent sollicité. La maire de Mazerny. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos habitants? Ils vous sollicitent, ils s'interrogent? Bon, c'est souvent pour des questions aussi personnelles. Hein. La maire ou le maire, il est parfois un confident.
Pour tout, pour des problèmes personnels qui n'arrivent pas. Alors, avec l'informatisation, nous, ayant beaucoup de personnes âgées, ils ne savent pas aller, comment tel service, comment ils sont, c'est des répondeurs, vous tapez un, vous tapez deux, ça ne leur va pas. Donc, ils viennent voir comment on peut trouver. Alors, on essaie de trouver des solutions. Voilà. Ou devant un problème, ils ne trouvent pas de solution. Alors,
mais heureusement d'ailleurs que le maire est là dans ces conditions-là, parce que c'est la seule personne élue, responsable, politique on peut dire, hein, même si c'est politique au sens large, à avoir comme interlocuteur. Sans ça, on se retrouverait. Faites le 1, faites étoile, faites 2.
Oui, et encore, on parle à des machines. Et c'est un contact, voilà, on va dire. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui, et même suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu isolés. Voilà.
Mais est-ce que, bon, pour l'instant, ça n'est peut-être pas arrivé, mais justement, à la suite du Covid, est-ce qu'il n'y a pas des gens, un jour, qui viennent s'installer, qui viennent dire, bon, au lieu d'habiter Charleville, je vais habiter Mazerny, c'est peut-être moins cher s'il y a une maison disponible, c'est peut-être plus pratique.
Alors, nous avons des avantages, mais nous avons des inconvénients. L'avantage, on est à 4 km de l'autoroute. On a 5 km de Poitiers-Rond où il y a une gare, tous les commerçants et tout. Nous n'avons plus rien au village, plus rien du tout. Donc, il faut absolument une voiture. Si vous avez des enfants pour l'école, pour les activités, il faut toujours, toujours transporter. Donc, ça, c'est un frein.
Et puis, il faut savoir s'organiser. On ne s'organise pas dans un village comme dans une ville. Dans une ville, on sort, on va à la pharmacie à 20 mètres, ou on va à la banque. Là, il faut prévoir, il faut tout s'organiser quand même.
Pour le manger, comme pour le reste. On a un boulanger qui passe presque tous les jours, sauf un jour dans la semaine. C'est le seul commerçant qui passe dans le village. Le reste, il faut se déplacer.
Bon, c'est vrai, il y a 126 habitants, mais avez-vous des projets en cours ou des projets à court terme, à moyen terme, voire à long terme pour la commune de Mazerny? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent?
Alors, c'est plus le maintien en état, on va dire. À l'heure actuelle, on a un problème sur l'église extérieure. Il y a des arbres et on a 2 monuments aux morts, un dans le village et un sur la Crête-Mouton qui fait suite à une bataille qu'il y a eu à la guerre 40, qui sont en train de force abîmer. Donc, on est en train de voir ce qu'on peut faire et ce qu'on aura comme subvention.
Alors, il y a aussi, bien entendu, aujourd'hui, les communautés de communes. Est-ce que le maire est encore, entre guillemets, je pose souvent la question, le patron dans la commune? Enfin, le patron au sens large. On a vu que vous rendiez beaucoup de services. Il a quand même toujours un rôle essentiel, le maire.
Ah ben, on a toujours le dernier mot. On peut toujours refuser. Enfin, si on veut, on perd de plus en plus de compétences. On a de moins en moins d'argent qui arrive, mais bon, ben on fait avec les moyens. Hein. Nous sommes 126 habitants par rapport à des villes importantes et tout ça. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir la même chose.
Mais la proximité de l'autoroute, vous l'avez rappelé, de l'autoroute A34, on sort à Voynique pratiquement pour aller chez vous.
Non, tout Poitiers.
On sort à Poitiers. On sort à Poitiers. Oui, oui, tout à fait. Ou d'ailleurs, il y a là une zone aussi pour le covoiturage, éventuellement.
Oui. Oui, oui, oui. Mais on peut pas, même en vélo, c'est trop dangereux. Il y a la côte de la bascule, tout ça, c'est trop dangereux. Donc, c'est toujours la voiture. Voilà.
Oui, et la côte de la bascule, pour l'avoir empruntée quelques fois lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose à grimper. Hein,
voilà, voilà.
Vous êtes souvent dans la mairie, vous allez quand même souvent dans votre mairie finalement?
Oh, la mairie, bon, moi, les gens, ils me rencontrent, ils me demandent, ils ont besoin, j'y vais, je me mets assez à disponibilité. Donc, c'est pas vraiment, oui, il y a une permanence toutes les semaines, mais c'est un peu suivant les besoins.
Puis on vous contacte directement, tout le monde vous connaît, évidemment. Alors, il y a une question qu'on pose toujours à nos maires, qu'on remercie de Reims et du département des Ardennes. Est-ce que vous êtes une mère, M-A-I-R-E, heureuse?
Bon, pour moi, on a pris l'engagement. Quand on prend l'engagement, on assume.
Okay.
Alors, avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà.
Et puis, il faut dire aussi que cette proximité, dans toute communauté, vous avez des bons caractères, des mauvais caractères, des gens qui peuvent toujours vous péter après le maire, des autres aussi qui vous félicitent. Donc, il faut quand même être, un peu psychologue, non?
Il faut avoir surtout les épaules bien larges et puis ne pas se monter tout de suite dans les tours, écouter et voir après ce qu'on peut faire. Ne jamais aller tout de suite au clash.
Bon, ben écoutez, c'est une leçon de vie. Hein. Merci à Noudar de nous la rappeler. Et puis, sachez que sur RCF, s'il y a un événement, s'il y a quelque chose qui concerne la commune de Mazerny, eh ben nous, on est les premiers et on sera là à vous donner l'antenne. Merci en tout cas à Noudar d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Jean-Pierre Benoît, 18h28. Vous ne vous arrêtez plus Jean-Pierre, on l'a dit, il y a du monde autour de cette table. Nous avons deux stagiaires, Manon et Kylian, qui attendent impatiemment de faire la météo. Il faudra encore patienter quelques instants. Mais nous avons aussi des invités, j'allais dire les habituels du mercredi lorsque l'on décrypte l'actualité politique et la vie publique. Fernand Tavares est avec nous Jean-Pierre.
Oui Fernand, rebonsoir, vous étiez tout à l'heure à 18h10. On vient de parler de la météo. Et justement à l'Assemblée nationale comme au Sénat, on a parlé des intempéries. Certes, elles ne touchent pas aussi gravement notre région que le Pas-de-Calais et d'autres régions de France.
C'est vrai, mais par exemple, cet après-midi au Sénat, on s'est attaché, évidemment, les sénateurs représentent leur département, représentent leur région, et ils sont très proches de leurs concitoyens. Alors, première chose, j'allais presque dire, même avant la Palestine, c'est les catastrophes en France, les inondations. On a fait un bilan des populations, des Français, des gens du Nord, des
touchés.
Gens en Bretagne et maintenant encore du côté d'Annecy en Savoie, qui perdent tout du jour au lendemain, plus de maison, plus de toit, plus de matériel et qui se trouvent complètement démunis et complètement désœuvrés. Heureusement, les populations diverses et variées sont venues à leur secours. On a salué au Parlement les secours qui sont arrivés de partout pour venir en aide. Les gens du Sud sont montés au Nord, dans le Nord, pour les aider. Ça a été applaudi, salué, reconnu, les pompiers, les policiers, etc., les élus locaux, les maires chez eux qui ont ouvert leur mairie, leur hôtel de ville, pour recevoir leurs administrés qui n'avaient plus du tout de toit. Et encore aujourd'hui, le problème n'est pas résolu. Alors, par exemple, prenons le Nord, qui est vraiment la région, le département le plus touché. Que va-t-il se passer pour le Nord comme pour les autres? Aujourd'hui, on a annoncé, parce que les gens qui sont touchés n'ont plus tout perdu. Plus de papier, plus de carte d'identité, plus d'attestation d'assurance. Bref, c'est vraiment un bazar monstre. Eh bien, il va falloir coordonner tout cela. Les gens n'en sortent pas. Alors les maires évidemment, sont très sollicités, mais eux-mêmes...
L'État fait un geste.
L'État a fait un geste, alors c'est un petit geste, mais quand même, l'administration va être renforcée. L'État a nommé, le gouvernement a nommé un sous-préfet
pour
chargé de gérer les dossiers suite aux intempéries.
Eh bien, il a du boulot, en tout cas.
Ah, il a du boulot, il va arriver dans le Nord.
Il est 18h30, on revient avec vous dans quelques minutes, Fernand, et on reparlera justement de la météo dans notre région Champagne-Ardenne. 18h30, l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudretz qui est avec nous.
Les titres de ce mercredi 15 novembre, objectif 447 spectateurs demain à l'Opérins à l'occasion de la projection du film « Tout pour être heureux », présentation avec Jérôme Adam, auteur-producteur. Du 17 au 25 novembre, l'agglomération d'Épernay organise la semaine zéro gaspille, zéro déchet dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets découverte.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Hier, à Reims, la Banque alimentaire de la Marne s'est vue remettre un nouveau véhicule électrique financé par les services de l'État. Le préfet de la Marne, Henri Prévost, a remis les clés à Dominique Choisy, président de l'association. Toujours dans le monde associatif, c'est demain jeudi que l'antenne Marne-Ardenne du Secours catholique présentera son rapport statistique annuel. On y reviendra dans les prochaines éditions du 18-19 régional. À l'occasion de la journée nationale de l'écoute, demain jeudi 16 novembre, SOS Amitié Reims et Jérôme Adam, auteur, producteur du film documentaire « Tout pour être heureux » vous donne rendez-vous à l'Opérins, place d'Erlon, de la Champagne à la Normandie, de Paris à New York, en passant par Barcelone. Jérôme Adam propose un voyage inédit au cœur des familles pour libérer la parole. Un regard singulier posé sur les addictions aux drogues et à l'alcool. Jérôme Adam.
Effectivement, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre les questions du milieu social, on peut mettre les questions d'amour qui reviennent souvent dans le film et lors des échanges avec le public. Mettre les questions d'argent, bien sûr, sur la table. Donc il y a plein de choses derrière cette notion de tout pour être heureux. Et puis aussi la notion de l'écoute. Et donc tous ces thèmes universels, l'amour, l'écoute, le sentiment d'impuissance, ce sont des thèmes qu'on va retrouver dans le film et sur lesquels on va échanger lors du débat qui suit la projection. Et on se rend compte que finalement, que ce soit des jeunes publics, des étudiants ou des personnes plus âgées, mais il y a quand même beaucoup, j'allais dire, de souffrance, mais surtout besoin de libérer la parole et d'échanger autour de ces thématiques, de soulager des blessures au sein des familles.
À l'issue de la projection, un échange est proposé au public avec des professionnels.
Oui, il y a des échanges. Alors, on évite beaucoup le côté fâchant, expert professionnel face au grand public. Et en général, lors des projections, je recommande aux experts, aux professionnels, d'être au milieu du public et pas d'être face au public. Donc moi, je me retrouve face au public avec... une personne en général à côté de moi, un peu plus experte on va dire, et le reste des professionnels est au milieu du grand public et ça crée vraiment des liens et ça facilite les échanges.
Jérôme Adam au téléphone avec Jean-Pierre Benoît. Pour la petite histoire, le film sera diffusé dans la salle de 447 places de l'Opérins. Le record de 400 participants à une projection de Tout pour être heureux, détenu par le Grand Rex à Paris, pourrait être battu à l'occasion de cette soirée. Vous pouvez par précaution réserver vos tickets en ligne ou les prendre sur place au cinéma Opérins. Projection demain, jeudi 16 novembre à 20h30. Donc, le rendez-vous, c'est demain. Demain aussi à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, il est encore temps de s'inscrire à la conférence du professeur Patrick Demuy qui évoquera le thème « Reims, aux origines de la tradition universitaire ». Il faut prévoir 2 heures pour ce temps fort de 20h à 22h, donc entrée par le 6 rue du lieutenant Erdouin. En revanche, ça s'est passé aujourd'hui, mercredi, l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, a rencontré les chefs d'établissement de l'enseignement catholique des Ardennes au collège Sainte-Thérèse de Rethel. Au programme, les questions pastorales du diocèse et des établissements et la place des établissements catholiques dans les différents espaces missionnaires. À partir de ce vendredi 17 novembre, l'agglomération d'Épernay participe à la semaine européenne de la réduction des déchets. La semaine zéro gaspille, zéro déchet est l'une des multiples actions que l'intercommunalité mène tout au long de l'année. Marie-Laure Verbrouck, vice-présidente en charge de la politique de prévention et de gestion des déchets à l'agglo d'Épernay.
C'est une semaine qui a vocation à sensibiliser, communiquer sur l'ensemble des modes de consommation que l'on pourrait avoir pour diminuer au bout de la chaîne tous les déchets, modifier notre perception des objets qui sont réutilisables. Alors cette année, le grand thème, c'est principalement le textile, avec vendredi soir un ciné-débat fast fashion des dessous de la mode à bas prix. C'est un film choc qui va présenter en fait tout l'envers du décor du textile pour pouvoir déjà percevoir en fait que le textile, le vêtement n'est pas seulement un achat compulsif, mais que ça engendre bien des conséquences au niveau économique et puis au niveau environnemental et humain. Sur les 9 événements qui vont se passer sur une semaine, ce sont aussi des animations interactives intergénérationnelles avec différents publics.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten, ciné-débat, atelier zéro déchet, mais aussi conférences, sans oublier le marché de Noël de l'occasion. Retrouvez le programme complet sur le site de l'agglomération d'Épernay. Ça jouait hier soir en volley pour Chaumont et le CVB 52 s'est imposé 3-7-2 sur le parquet de Nice pour la 6e journée de Liga. Un succès qui permet aux Chaumontais de conserver leur 3e place du classement. 18h36, avant de refermer ce journal, qui dit stagiaire dit météo, Kylian ou Manon, Manon ou Kylian, ce sont tous les deux mes chouchous. Alors je ne voulais pas faire de jaloux, présentation à deux voix ce soir. Et ça vous fait rire, bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis.
Bonsoir Kylian.
Bonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce jeudi ?
Pour ce jeudi matin, de la pluie éparse sera prévue sur l'Aube et les Ardennes. Du brouillard sera attendu à Épernay et à Langres. Pour le reste de la Marne et de la Haute-Marne, des nuages tumultueux sont prévus. Vos thermomètres afficheront au minimum 7 degrés et au maximum 14 degrés.
Sur tous vos jolis territoires, un temps pluvieux pour ce jeudi après-midi. Avec des températures de 9 à 14 degrés Celsius, le vent soufflera entre 15 et 20 degrés et entre 15 et 20 km/h tout au long de la journée.
Demain, nous célébrons les marguerites, même si ce n'est plus vraiment la saison.
Pour ce mercredi soir, un temps nuageux recouvrira toute la Champagne-Ardenne.
C'est bien, vous faites des vannes, elles sont prévues, elles vous font rire quand même. Merci beaucoup Manon, merci Kylian. On vous retrouvera avec plaisir tout au long des prochains jours, des prochaines semaines. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue. Fernand Tavares est notre invité tout de suite avec Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
18h37, c'est l'occasion de retrouver Fernand Tavares qui est avec nous il y a quelques minutes. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de, souvent le mercredi, car vous avez travaillé beaucoup à la chaîne parlementaire, Assemblée nationale, Public Sénat, de suivre les débats à l'Assemblée et au Sénat, les questions orales. On avait évoqué tout à l'heure, il y a quelques minutes, pour ceux qui nous écoutaient, les intempéries. Ils ont été à la une à l'Assemblée et au Sénat cet après-midi, en particulier dans le département du Nord. On vient d'entendre tout de suite avec Manon et son alter ego
Kylian,
et voilà, qui nous ont présenté la météo, que c'était quand même pas gravissime dans notre région, mais en France, il y a une mobilisation générale pour certaines régions.
Effectivement, c'est mobilisation générale pour venir vraiment en aide, et encore, c'est un euphémisme, aux gens du Nord, mais aussi aux Bretons, dont certains sont encore sans électricité. Je crois qu'il y a à peu près encore 3 ou 4 000 foyers qui sont privés d'électricité en Bretagne. Je ne parle pas évidemment du Nord qui est carrément inondé, archi-inondé. Les désastres sont considérables. Plus de maisons, plus de toits, plus de matériel dans la maison, réfrigérateur, machine à laver, literie. Alors, les papiers d'identité ont disparu. Alors, les attestations d'assurance ont disparu. Vraiment, c'est
considérable. Il faut dire que dans le cas d'intempéries comme ça, on peut voir ça de façon très triste, évidemment, et c'est tragique sur le coup, mais les assurances travaillent après les catastrophes naturelles lorsque la zone est déclarée, ce qui sera évidemment le cas dans quelques semaines.
Alors évidemment, ceux qui sont touchés de plein fouet voudraient que ça aille beaucoup plus vite, mais quand on voit les inondations et
tout ce dont il y a à faire face dans les mois, dans les semaines qui viennent, ça ne va pas se faire malheureusement du jour au lendemain. Alors, le gouvernement a pris une petite disposition face aux problèmes administratifs qui s'opposent aux uns et aux autres, en particulier pour pouvoir saisir leurs assurances, remplir des dossiers. Par exemple, les lignes téléphoniques, certains ont tout perdu, même leur téléphone portable qui se retrouve sous l'eau. Donc, il faut absolument leur venir en aide et mettre un moyen au moins officiel, pour prendre en charge tout cela. C'est fait depuis cet après-midi. Ça n'est pas un événement en soi, mais tout de même, c'est un geste important, puisqu'un sous-préfet a été nommé aujourd'hui même pour s'installer dans le nord, dans les zones inondées, pour essayer de coordonner et de recevoir au maximum, sinon les gens, un par un, c'est pas possible, mais au moins des ensembles qui seront pris en main par les mairies et que les dossiers soient traités vraiment au plus près et au plus vite par les uns et les autres. Alors ce sous-préfet, c'est un grand administrateur, donc ça peut-être donner un petit peu de morale aux uns et aux autres en disant « on va s'occuper de nous, même si on a tout perdu au niveau administratif », et faire patienter les assurances qui quelquefois manquent un petit peu d'humanité parce qu'elles disent « ah, mais vous n'avez plus vos papiers, vous n'avez plus vos attestations, nous il nous faut ci, nous il nous faut ça ». Mais la plupart des gens, sauf les plus anciens, ont des ordinateurs. Sur leurs ordinateurs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout. Leurs cartes d'identité, leurs attestations d'assurance, etc. Et les ordinateurs sont noyés. Donc ils n'ont plus rien du tout.
Il y a beaucoup de démarches à faire.
Si je dis tout ça, ça montre que tout est considérable. Il n'y a pas que les problèmes matériels. Ouais. Alors, maintenant, le monde agricole, qu'on connaît bien, nous, dans notre région, le monde agricole aussi est touché de plein fouet. Des troupeaux ont été enlevés, ont été noyés, certains ont pu être sauvés, des pâturages sont complètement inutilisables. Alors ce qui a été annoncé cet après-midi, c'est qu'un certain nombre de travaux vont être faits, mais après coup, en particulier pour récurer les canaux, pour faire en sorte que l'eau s'évacue au plus vite. Et puis, autre disposition donc qu'il faudra suivre demain, c'est que au Parlement européen, donc et vraisemblablement aussi à Bruxelles, on va prendre un certain nombre de dispositions pour venir en aide aux sinistrés. Pourquoi ? Parce qu'il existe au niveau européen des fonds de solidarité européenne. Et effectivement, on n'en a pas beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant. On s'occupait surtout des problèmes franco-français. Or, il y a des fonds et un budget assez important pour venir en aide. Pas seulement en France.
Je vous interromps, Fernand, mais quand vous dites fonds européens, ça veut dire que les autres pays aussi peuvent demander.
Tout à fait.
La France est touchée, mais la Belgique l'est aussi.
La Belgique.
Donc, il y a beaucoup de pays, enfin, limitrophes, qui vont demander aussi des aides en Europe.
Mais c'est normal. La Belgique et la Hollande aussi. Donc, de toute façon, dès demain, il y aura des aides financières qui vont venir, comment dirais-je, conforter en quelque sorte ceux qui sont sur le terrain pour essayer d'éliminer toute cette eau et puis d'entamer une reconstruction. Mais évidemment, ça ne va pas être du jour au lendemain. Simplement, il faut que ceux qui sont touchés se rendent compte qu'ils sont vraiment épaulés, entourés, pas seulement par les administrations et par le gouvernement, mais aussi par les pompiers, les policiers qui sont venus de toute la France pour venir en aide aux uns et aux autres.
Il faut dire, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans leur voiture, qui sont chez eux, doivent se dire, mais alors, quelle tristesse sur RCF, la joie se partage, mais on annonce que des mauvaises nouvelles.
Mais on ne peut rien, c'est comme ça.
Il y a les catastrophes, et puis si on parle un petit peu de ce qui se passe dans les hôpitaux, il y a certains parlementaires qui sont montés au créneau en disant qu'on a supprimé quand même pas mal de postes les dernières semaines.
Ah, effectivement, bon, reparlons des hôpitaux où on a annoncé par exemple au Parlement. Alors c'est triste de dire tout cela, mais c'est vrai que tout ce qui a été évoqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale puis au Sénat, ce sont des problèmes pas très gais, plutôt tristes, plutôt dramatiques. Et encore, on n'a pas encore parlé tout de suite de la Palestine, de ce qui se passe là-bas et d'Israël. Alors ça, c'est encore pareil. Alors, comment vous voulez que je dise un petit mot sur les hôpitaux
très rapidement, Fernand.
Le ministre de la Santé a reconnu que dans les hôpitaux, évidemment, il y avait des problèmes sérieux, en particulier les services d'urgence qui ont été fermés.
Combien de fermetures ?
Eh bien, il y en a eu à peu près cet été surtout, je ne sais plus, 100 ou 140. D'autre part, il y a aussi des maternités qui ont des difficultés. Donc, le problème ou la problématique, c'est à nouveau de remobiliser tous les personnels soignants, pas seulement les médecins, mais aussi les infirmières, qui ont de plus en plus tendance à quitter leur poste et démissionner parce que, ma foi, ils n'en peuvent plus. Ils se trouvent mal payés, ce qui est vrai, même s'il y a eu des efforts de fait. Souvent, on retrouve qu'ils quittent la France pour aller en Suisse, où les salaires sont doublés pratiquement, ou au Luxembourg. Donc vraiment, le ministre a reconnu cet après-midi au Sénat qu'il y avait de gros problèmes et qu'effectivement, il fallait absolument essayer de remotiver tout le monde. Mais vous voyez, Vous parlez de choses, de catastrophes. La catastrophe du monde de la santé, c'est vraiment quelque chose.
Alors, pour finir, dans les catastrophes, eh bien, on poursuit, mais c'est la dernière. On va passer à un autre sujet ensuite. C'est évidemment, à l'Assemblée et au Sénat, on a évoqué ce qui se passe en Israël et en Palestine, bien évidemment.
Alors, depuis un mois, régulièrement, on fait le point. Rappelez-vous, cet octobre, que disait la France et que disait le gouvernement français et que disait le Premier ministre, la Première ministre. 1. Israël a le droit de se défendre. La semaine suivante, Israël a le droit de... Parce que, évidemment, à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'opposition, comme la majorité, disait « Mais attendez, c'est pas suffisant. Tout le monde est bombardé. Qu'est-ce qu'on fait? À Gaza, c'est pas possible. » Bon. 1. Israël a le droit de se défendre. Tout le monde le dit et tout le monde le reconnaît aujourd'hui au gouvernement. 2. À condition de respecter le droit international. 3. Respecter le droit des enfants et le droit à se faire soigner. 3. Faire en sorte que les hôpitaux ne soient jamais bombardés et attaqués. Donc respecter un droit, entre guillemets, sanitaire international. Alors que dit Israël aujourd'hui? Aujourd'hui, encore cet après-midi, le Premier ministre dit « Oui, d'accord, on est rentré dans l'hôpital principal de Gaza. Pourquoi ?» Mais on n'a pas de preuves. Moi, je vous répète ce qu'on entend des uns et des autres et des communiqués qui arrivent aujourd'hui. Monsieur Netanyahou dit, dans cet hôpital central, le plus important de Gaza, on est sûr qu'il y a un commandement du Hamas qui est installé. Alors, à partir de là, qu'est-ce que vous dites? Mais oui, mais alors, on va quand même pas bombarder un hôpital alors qu'il y a des civils, des enfants, des bébés qui sont là, et même s'il y a des membres du Hamas. Et le problème, c'est de savoir si ça, c'est audible par les Israéliens qui ont évidemment... était massacré le 7 octobre. C'est pas facile, on peut pas se mettre d'un côté ou de l'autre. Mais d'un autre côté, si c'est vrai que c'est un point central, un commandement central du Hamas sous les hôpitaux, ça veut dire qu'ils se servent des malades, des civils, comme boucliers. On n'a pas la preuve, mais c'est ce que dit Israël aujourd'hui. Donc on n'est pas encore sorti de l'affaire.
Il n'y a pas de nouvelles, on n'a pas reparlé des otages à l'Assemblée, pas trop finalement.
Très peu.
Eh bien, écoutez, Fernand, on aura
un dernier mot très vite, en 30 secondes. Vous savez qu'on parle beaucoup de, alors, un problème franco-français, la loi sur la fameuse loi sur l'immigration.
La loi immigration, oui.
Donc, c'est passé au Sénat, c'est une chose. Ça revient à l'Assemblée nationale, qui voudrait détricoter un petit peu ce qu'a fait le Sénat.
Donc, c'est en commission à l'Assemblée.
C'est en commission à l'Assemblée cette semaine, et ça va passer en séance publique la semaine prochaine. Alors, le problème est suivant. Si l'Assemblée nationale modifie le texte du Sénat, ce qui risque d'arriver, bon, la formule, vous la connaissez. Ça repart après la première lecture, ça repart en deuxième lecture au Sénat. Si le Sénat retoque, ça revient en deuxième lecture à l'Assemblée.
Pour
si
la
c'est
commission
retoqué,
mixte paritaire.
Ça termine par une commission mixte paritaire ou Assemblée-Sénat. Et si vraiment la commission mixte paritaire ne tombe pas d'accord, ça revient à l'Assemblée nationale où il y aura un vote peut-être. Car c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot pour les lois ordinaires. Le problème tout de même, c'est qu'en l'état actuel des choses, si le gouvernement sent que ça ne va pas passer, il peut dégainer pour la énième fois son 49-3 avec une différence par rapport au budget. C'est que là, ça sera un 49-3 auquel le gouvernement a droit une seule fois par session parlementaire.
Alexis, une petite intervention avec vous qui êtes toujours en contact avec les auditrices et les auditeurs.
Et oui, avec Bernard Leclerc, que l'on connaît bien dans le diocèse de Reims et des Ardennes, qui nous dit « Bonsoir Alexis, sur RCF à l'instant, vous parlez des inondations du Nord. Il s'agit en fait du Pas-de-Calais dont je suis originaire, amitié fraternelle. » Là, Fernand, vous êtes
alors,
repris de voler.
Fernand, vous êtes
c'est
quand
la
même,
grande région.
Vous êtes quand même un spécialiste.
C'est la grande région.
Vous étiez rédacteur en chef dans toutes ces régions. Si vous confondez le Pas-de-Calais et le Nord, où va-t-on?
Mais le Nord est en pointe sur le Pas-de-Calais, évidemment, la grande région.
La grande région, mais c'est surtout effectivement le Pas-de-Calais.
Oui.
Et la région peut-être de Boulogne, toute cette région, en tout cas le 62.
Et on n'oublie pas les Bretons. Et on n'oublie pas non plus les Savoyards aujourd'hui.
Absolument. Donc il y a plusieurs régions, mais c'est vrai que c'est plus sans doute le Pas-de-Calais.
Et la solidarité doit venir de tous les départements, quels qu'ils soient.
Voilà, et on vient même du Sud pour aider les gens du Pas-de-Calais. Merci en tout cas Fernand Tavares, que nous retrouverons la semaine prochaine. On peut déjà annoncer la semaine prochaine qu'on retrouvera peut-être Hervé Chabot. Et puis surtout, on parlera de la librairie Guerlain avec Jacques Ives qui revient à propos de son livre « Que lentement passent les heures ». Parce qu'on peut dire que la librairie Guerlain, il y a quelques années, avait été moteur dans cette action culturelle. On recevait pas mal d'écrivains et ça sera l'occasion de revenir sans regarder dans le rétroviseur, mais sur de bons souvenirs où le libraire jouait un rôle essentiel de conseil. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui avec Amazon, puisque beaucoup de gens commandent des livres, évidemment. Il est 18h50, dans un instant, la suite de nos programmes avec vous, Alexis.
Et avec vous aussi, Jean-Pierre.
Le 18-19 sur RCF.
Et ça sera surtout avec vous. Vous êtes à la baguette ce mercredi. Jean-Pierre, vous parliez justement d'Amazon, des livres. Le livre chrétien, en fait, vous en parlez tout de suite avec votre invité.
Avec nous aujourd'hui, Erika Djadjo. Erika Djadjo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vendredi 17 et samedi 18 novembre, vous organisez un festival international du livre chrétien à Reims. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, il s'agit du Festival international du livre chrétien de Reims, qui s'appelle Megillah Reims. C'est la deuxième édition qui se déroule du 17 au 19 novembre à Reims.
Alors, il y a plusieurs temps dans ce grand rendez-vous avec le prix international du livre chrétien. Donc, il y a à la fois une conférence, ce sera à l'ICP, l'Institut catholique de Paris, dans l'amphithéâtre Sorbonne. De quoi s'agit-il ? Ça, c'est pour l'ouverture du festival.
Eh bien oui, parce que le festival est constitué de plusieurs animations, plusieurs temps forts. Et le premier, l'ouverture, c'est un temps de réflexion avec la conférence inaugurale qui a lieu dans cet amphithéâtre Sorbonne en présence de professionnels du livre, d'enseignants, de chercheurs, de journalistes, d'hommes de médias et de femmes de médias sur la thématique des enjeux de la vulgarisation des écrits chrétiens dans l'espace public.
Et alors, à cette conférence, tout le monde est invité, tout le monde peut venir à l'Institut catholique de Paris. C'est à 19h30, c'est vendredi le 17 novembre prochain.
Évidemment, tout le monde est invité, l'entrée elle est libre, mais sur inscription pour des raisons évidentes de sécurité. Il y a donc sur le site festivalmegillah.org un lien de réservation pour l'accès à la conférence.
Alors festival, bien sûr, festival, tout attaché Megillah, megillah@gmail.com. Alors, vous aviez déjà organisé l'année dernière un festival, mais là, en avançant, j'allais dire en âge, vous allez améliorer le produit. Cette année, ça va être encore mieux que l'an dernier.
Évidemment, parce qu'on s'améliore, on retient ce qui n'a pas marché et on améliore les pratiques. Alors l'année dernière, on avait tout ce qui se passait sur un même site et cette année, on a voulu un peu en profiter pour faire découvrir la ville de Reims à tous les festivaliers. Donc il y en a qui viennent de partout, hein, jusqu'à de l'île de la Réunion même. Et qui arrive, alors on a disséminé les activités dans la région.
Alors évidemment, ça c'est pour le vendredi, à l'Institut catholique de Paris, 19h30, cette deuxième édition avec l'ouverture dans l'amphithéâtre Sorbonne. Et puis le lendemain, samedi 18, là aussi c'est un grand rendez-vous, c'est à 20h, ce n'est plus à Reims, c'est à la salle communale de Vandeuil. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit du prix international du livre chrétien. C'est une cérémonie de remise de prix aux meilleurs lauréats qui ont soumissionné, en fait, pour pouvoir être retenus dans trois catégories. La catégorie enseignement, la catégorie témoignage et la catégorie jeunesse. Mais avant d'être au soir, nous avons toute la journée du samedi des stands, des expositions, des dédicaces de livres qui ont lieu au Centre international de séjour à Reims, qui se situe 21 chaussée Bocquen. Donc de 10h à 18h, l'entrée est libre, les visites vraiment libres, et tout le monde pourra venir se procurer des livres et des bandes dessinées.
Et puis le samedi, il y a non seulement la remise des prix, remise du prix international du livre chrétien Megillah, mais il y a aussi des divertissements qui sont proposés pour ceux qui viennent. Et puis la cérémonie officielle du prix Megillah.
Mais c'est ça, c'est qu'il y a un peu de suspense pendant la soirée. Et on a voulu divertir un peu tout le monde, toutes sortes de publics. Nous avons du stand-up chrétien. Nous avons du mime, qui est une troupe qui se fait par une troupe de mimes. Chrétien aussi, la thématique du livre, de l'évangile, ainsi de suite. Et abordé pendant ces prestations. Nous avons du chant gospel, nous avons toutes ces choses et on a un dîner, hein, prestige. Je vous garde la surprise, je ne vous révélerai pas le menu.
Eh bien, on en saura plus si on va à Vandeuil. Hein. C'est vendredi soir, samedi soir, c'est à partir de 20h à la salle communale de Vandeuil, rue de la Mairie, une commune dont nous parlons souvent sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes. Alors, on rappelle les deux rendez-vous, si vous le voulez bien, Erika, si vous voulez bien.
Alors, le vendredi 17 novembre, à partir de 19h30, conférence inaugurale avec un cocktail. Et samedi 18 novembre, de 10h à 18h, des stands, des expositions. expositions, dédicaces et des ateliers. Et le soir, prix international Megillah 2023. Nous avons aussi la matinée du dimanche où nous avons encore des stands et une collecte de livres. Alors j'appelle à ceux qui ont des livres à donner pour des personnes en difficulté, en nécessité de lire parce que ça fait du bien. Vous pouvez les apporter.
Et alors le dimanche, ce sera où cette fois ?
Au Centre international de séjour.
Au Centre international de séjour qui vous sert en quelque sorte de base logistique, hein, le samedi après-midi ou le samedi toute la journée. Et puis ICP vendredi, Vendeuil samedi soir et Centre international de séjour tout le reste du week-end.
C'est ça.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
C'est moi
et puis on souhaite pleine réussite à ce prix international du livre chrétien, mais surtout à ce festival international du livre chrétien de Reims. Merci d'avoir été avec nous et puis très bon week-end.
Merci, à bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h55, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, c'est le magazine régional. On est avec vous jusqu'à 19h, encore 5 minutes à passer ensemble ce soir. Jean-Pierre, décidément, on vous met à contribution dans ce magazine, ce mercredi particulièrement, avec un sujet qui vous tient à cœur, la pénurie de médicaments, Jean-Pierre. Parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'on a du mal à se procurer certains médicaments, notamment dans le département des Ardennes, mais pas que, c'est vrai sur tout l'Hexagone, parfois même des médicaments de première nécessité, vous y reviendrez d'ici quelques instants, mais les Ardennais, qui ont la chance, j'allais dire, d'habiter à la frontière avec la Belgique, ont plus d'un tour dans leur sac.
Oui, effectivement, on a été alertés, mais beaucoup d'auditeurs le savent, et bien sûr, on ne veut pas dramatiser ce soir, on a l'impression toujours de manipuler des concepts un petit peu tristounets, mais c'est une
On n'est pas dans le catastrophisme.
On n'est pas dans catastrophisme, mais il faut quand même dire une certaine réalité, c'est que bon nombre de patients, alors en particulier dans les Ardennes, n'hésitent pas à passer la frontière pour se rendre en Belgique, et comme le relate d'ailleurs, et comme le relatait hier l'Union, il parlait de Florenville qui se trouve de l'autre côté de la frontière ardennaise.
Jean-Pierre, quels sont les médicaments concernés? Parce que j'ai l'impression que finalement ça peut être, même pour des médicaments finalement assez classiques à se procurer, on a parfois du mal à en avoir.
Oui, absolument. Par exemple, on a besoin d'anti-inflammatoires. On a parfois du mal à en trouver, l'ibuprofène, mais tous les types de médicaments sont concernés. La cortisone, par exemple, pour les infiltrations. Mais il arrive aussi que les pharmacies belges connaissent à leur tour, et elles aussi, la pénurie.
Ça veut dire, Jean-Pierre, si je vous suis, que les Belges, les Ardennais belges qui vivent donc de l'autre côté de la frontière par rapport à nous Français, bien à leur tour, ils traversent la frontière pour venir en France en se disant, si c'est la pénurie chez nous, pourquoi pas aller voir dans les pharmacies françaises?
Ah ben oui, mais alors si c'est la pénurie partout, on risque pas de céder beaucoup, mais c'est peut-être pas sur les mêmes types de médicaments. Alors c'est vrai, vous avez raison Alexis, ça arrive, puisqu'à Carignan, dans les Ardennes, on a vu arriver des patients belges qui sont venus la semaine dernière réclamer des médicaments, cette fois contre le diabète, dont vous avez beaucoup parlé, je crois, dans votre journal d'hier.
Tout à fait, à l'occasion de la journée mondiale du diabète.
Alors en définitive, vous l'avez rappelé, la pénurie a bien passé les frontières. Elle n'a pas de frontières.
Merci Jean-Pierre de nous avoir éclairé sur cette pénurie de médicaments. On va veiller au grain, Jean-Pierre.
Alors il faut quand même rappeler pour nos auditeurs un certain nombre de rendez-vous. Demain, c'est une émission spéciale de 18h10 à 19h. Vous vouliez peut-être le dire puisque c'est depuis Montier-en-Der.
Avec le Festival International de la Photographie. Ça ouvre demain, c'est jusqu'au 19 novembre. Et donc vous l'avez dit Jean-Pierre, dès demain, notamment nos amis de RCF Cœur de Champagne proposeront une programmation spéciale tout au long de la journée et en particulier pour les auditeurs en région, 18h10, 19h, vous retrouverez Christopher Fausten aux manettes et il y aura une proposition tout à fait exceptionnelle avec un direct depuis Montier-en-Der.
Alors, plusieurs rendez-vous avec Reims-Ardennes cette fois. Demain matin, 7h-8h, on parlera du Secours catholique et en particulier de ce qui va se passer dans le Rethel-Oise avec le père Bruno Coqueret. Ça sera avec vous, Alexis.
On évoquera effectivement la journée nationale du Secours catholique. D'ailleurs, demain, l'antenne Marne-Ardennes du Secours catholique présentera son bilan statistique annuel. Il a été présenté au niveau national, c'était hier déjà. Et puis aussi, on évoquera la journée mondiale des pauvres.
Et puis vendredi, un rendez-vous à ne pas manquer, cette fois toujours sur RCF Reims-Ardennes, avec Mgr Étienne Veteux, cette fois, qui sera en direct à 7h et à 8h avec nous.
Puisque l'on fait une rubrique Un Jardin, Jean-Pierre, avec vous, c'est un rendez-vous que l'on donne sur RCF Reims-Ardennes, sur RCF Cœur de Champagne et sur toutes les stations RCF francophones en France et en Belgique. C'est la semaine prochaine, la campagne annuelle exceptionnelle du Radio Don, Jean-Pierre.
Oui, c'est la campagne du Radio Don. Vous savez qu'en novembre et en décembre, c'est la dernière ligne droite droite pour boucler le budget 2023 et faire face à certaines exigences financières. Le réseau de RCF se mobilise un peu partout en France. Nous y participerons. Et puis, bien sûr, je crois que dans trois questions le matin à 7h40 et dans d'autres émissions, on aura l'occasion d'y revenir très largement.
Effectivement, nos auditeurs, mais bien plus que cela, nos donateurs qui nous permettent de vivre, seront mobilisés et témoigneront de l'utilité de soutenir RCF et de l'importance d'écouter RCF, des bienfaits aussi que parfois ça peut apporter. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Soutenir RCF, ce n'est pas simplement donner de l'argent. Parfois, les petits gestes nous aident beaucoup, mais en parler aussi autour de vous, dire que cette station existe et qu'elle vous apporte des choses positives, ça nous aide énormément également.
Merci Alexis, on remercie bien sûr Fernand Tavares qui était avec nous. On se retrouve, si vous voulez bien, la semaine prochaine. On remercie nos stagiaires de nous avoir accompagnés avec leur parapluie, mais avec leur bonne humeur. Et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle page du 18-19 régional. Dans quelques secondes, le journal national de RCF. Bonne soirée.